tranche de vie, vagabondage sans prétention dans nos existences. Chers auditeurs de Tranche de Vie, je quitte Périgueux, direction Bergerac, presque en haut de la côte dite de la Rampinsol, j'avise à droite un estaminet aux allures de saloon, orné d'un nom plutôt rural, La Grange. Devant stationnent quelques gros cubes, où, sans être un spécialiste de ces bêtes, je reconnais parfois la silhouette joufflue de Belle Harley Davidson, pétante de chrome ou d'un noir inquiétant. Une pancarte annonce aussi « Accueil moto ». Je m'arrête, curieux, et je suis accueilli par Sébastien. Je vais aller de surprise en surprise. Sébastien, bonjour. Merci d'avoir accepté cette rencontre. Qu'est-ce que c'est que La Grange ?
Alors, bonjour aux auditeurs. Donc, La Grange, c'est un bar ambiance, bar snack. On fait quand même à manger. Un bâtiment qui est donc avec un bar snack, un garage moto et une tatoueuse.
Cet aspect de l'activité moto tourne autour d'une passion qui est commune à plusieurs personnes qui travaillent dans votre établissement, ou bien c'est vous qui avez décidé d'annexer à ce bar, snack, une activité de réparation de moto.
Alors, non, quand j'ai repris, ça s'appelait d'ailleurs le saloon, comme vous l'avez précisé avant, il y avait déjà des motards, donc moi je suis déjà motard aussi, donc j'ai repris, on va dire, l'accueil moto, après il n'y a pas que des motards, et à côté, donc un ami m'a demandé pour, il y avait deux locaux de libre, m'a demandé pour ouvrir un garage moto. J'ai dit c'est une bonne idée, comme ça, ça rejoint un peu ma clientèle. Donc ils peuvent venir changer un pneu et boire un coup en attendant. Et le tatouage, c'est pareil, c'est quand même, on va dire, 90% des motards, je pense, ils sont tatoués. Donc ça relie un peu le trio que l'on fait.
Alors ça, est-ce que ça se traduit dans votre clientèle ? Est-ce que vous avez une clientèle qui est en majorité de motards ?
Non, on va dire 50%. 50% de motards, en gros.
Et là, vous êtes installé depuis combien de temps ?
Alors, depuis février 2020, juste avant le confinement.
Oui, là, vous n'êtes pas installé dans des conditions idéales. Hein. Mais... ça s'est pas mal passé jusqu'à présent. Est-ce que vous trouvez que vous arrivez à vous implanter ?
Alors, après la reprise du premier confinement, au début, bon, ça a bien été. Bon, je suis resté un mois ouvert. Après, c'est confinement. Donc, au deuxième confinement, bon, ça s'est super bien passé. On avait de la clientèle. Enfin, tout se passait pas mal, on va dire. C'était en évolution. Et là, depuis la reprise donc, du troisième confinement, là, depuis les 7 mois d'arrêt, on a vu quand même un changement au niveau de la clientèle. On a eu quand même une belle baisse de clientèle. Beaucoup de gens restent chez eux à faire la fête ouais. Par rapport au confinement. Quoi.
Là, vous espérez un petit peu quand même que ça va reprendre avec si les taux se desserrent un petit peu, bien que maintenant il soit question qu'ils se resserrent à nouveau. On va laisser cette question de côté parce que c'est vraiment. Et est-ce que alors votre passion de la moto, est-ce que vous êtes un praticien de Harley Davidson ?
Oui, j'ai une Harley Davidson. Je suis dans un club moto et. Je défends les blousons noirs entre guillemets pour faire voir aux gens. Justement, c'est ce que je voudrais, c'est que les gens, donc ici les gens à La Grange, enfin les clients de La Grange, quand ils viennent, ils évoluent au milieu de personnes portant des couleurs, voilà. Ce qui fait que ça leur permet d'avoir une autre vision sur, euh, sur ce qu'on peut voir à la télé où les gens en Harley, c'est tous des bandits, enfin bref.
Oui. On va dire dédiaboliser les praticiens de Harley-Davidson. Mais bon, bah ça, c'est quand même quelque chose qui a été entretenu par le cinéma, par des tas de...
Tout à fait.
Et alors donc, malgré tout, vous avez parlé de tatouage tout à l'heure, malgré tout, les passionnés de Harley-Davidson sont quand même des gens qui aiment à se distinguer des autres par leur habillement, par ce qui orne leur habillement, par les tatouages et puis par un esprit particulier. Il y aurait, ça c'était le président de l'association américaine des motos, qui a déclaré qu'il y avait 1% peut-être des bikers qui étaient des gens de mauvaise fréquentation. Et donc, ironiquement, les bikers aiment bien arborer ou se réclamer de ce 1%. Pour dire qu'ils appartiennent...
Tout à fait. Mais c'est pas tout le monde
par dérision, ils appartiennent à ce 1%.
Voilà. C'est pas tout le monde qui porte 1%. C'est vraiment des personnes qui sont hors système, on va dire. Qui sont contre le système. Ça veut pas dire qu'ils soient des bandits. Hein. Ça veut dire qu'ils défendent des valeurs qui parfois n'existent plus.
Malgré tout, quand même, s'attache, quelle que soit la moto qu'on chevauche, s'attache à la pratique de la moto, enfin de grosses cylindrées. Une idée de liberté,
oui.
Et éventuellement peut-être un petit peu un esprit un peu rebelle et qui s'exprime par le fait que les gens partent comme ça en groupe pour des grandes balades, ce qui a été illustré par de nombreux films et puis par de nombreux écrits déjà. Pour vous, est-ce que cet esprit subsiste et est-ce qu'on le rencontre encore, est-ce qu'il est bien vivant en France dans les clubs de moto? Quelle que soit la marque. Ou bien est-ce que c'est plutôt l'apanage des gens qui utilisent des Harley?
Alors, les clubs de moto, on va dire uniquement Harley. On va dire oui, ils sont encore dans cet esprit-là. Après, les clubs de moto mélangés ou alors uniquement japonaises, entre guillemets, ou plus japonaises, ils sont dans l'esprit balade. C'est pas du tout la même chose. Ça n'a rien à voir.
Alors, qu'est-ce qui les distingue? Qu'est-ce qui distingue ces deux groupes? Et puis, parce qu'après, on viendra sur ce qui divise aussi les praticiens de Harley-Davidson.
Ben, ce qui divise les deux groupes, c'est que dans le monde Harley, on va dire, il y a des règles. Et ces règles-là, eh ben, elles sont suivies, il y a un respect, il y a une fraternité, oui. Qu'il n'y a pas dans les autres clubs de moto, on va dire.
Il y a aussi, si j'en crois ce que j'ai pu lire, parce que moi je suis complètement ignorant de tout ça, l'amour de la belle mécanique.
Oui, la belle mécanique, après, c'est partout. Il y a des gens qui roulent en japonaise et qui ont l'amour de la belle mécanique. Voilà, ou en anglaise, ou en d'autres motos autres que Harley-Davidson. Donc ça, c'est la belle mécanique, c'est lié au motard, je pense.
Bah quand même, depuis 118 ans que la marque existe, il y a eu des tas de modèles qui se sont succédés, et puis il y en a qui ont subsisté très longtemps, il y en a qui sont encore des objets de collection, d'autres qui ont été désignés comme des échecs complets. Tout ça, c'est quand même important, ça fait partie de l'histoire de la marque.
Ah oui, bien sûr, ça fait partie de l'histoire de la marque. Mais après, il y a Indian, il y a Norton, enfin il y a les Anglais aussi qui ont quand même leur histoire, bon, moins vieille, mais ils ont quand même leur histoire.
Vous, pourquoi vous êtes un inconditionnel de Harley?
Parce que je suis un rebelle. Non, parce que j'ai toujours un esprit rebelle, enfin j'aime pas l'injustice déjà, et j'aime pas le mensonge, donc l'injustice, on essaye d'être le plus juste possible. Et voilà, après oui, c'est... C'est une identité qu'on se donne. Hein.
Quand on écoute, quand on voit, quand un profane écoute le bruit d'une Harley-Davidson ou qu'il en voit une, il la reconnaît tout de suite.
Logiquement, oui.
Bien d'accord.
Logiquement, oui.
Alors, qu'est-ce qui les distingue des autres motos?
Je sais pas, est-ce que vous avez déjà été sur une Harley?
Non, j'y suis jamais allé. Non, voilà. Malheureusement, ça manque à ma culture.
Ouais, moi, j'ai roulé, j'ai dû rouler 28 ans en japonaise. Et à partir du moment, bon, je voulais déjà une Harley depuis tout jeune. Mais bon, il fallait de l'argent, donc on ne peut pas se la payer comme ça. Et du coup, à partir de la première fois où j'ai eu mon arlet, je ne voudrais plus rien, une autre chose que
voilà,
l'arlet.
Ça a été une illumination. La sensation de conduite vous a apporté quelque chose de complètement nouveau?
Ah oui, tout à fait. C'est la sensation, c'est le bruit, c'est les vibrations, c'est la personnalisation. Parce qu'on la personnalise à notre image.
Alors ça, c'est un autre aspect. Alors voilà, on va essayer de serrer les questions. D'abord, revenons, si vous voulez, sur le fait que les amoureux des Harley se divisent quand même en groupes assez distincts. Qu'est-ce que vous avez de commun avec le ministre de la Justice, M. Dupond-Moretti, qui a eu une Harley Davidson?
Commun, je ne sais pas, pas grand-chose, je pense, mis à part avoir une Harley. Mais non, après... entre guillemets, il y a les hugs.
Oui.
Donc les hugs, c'est ceux qui s'achètent des Harley toutes neuves. Et
les Harley,
voilà. Voilà. C'est ça.
Mais hug, ça veut aussi dire cochon castré.
Ça, je ne savais pas. Ça va bien pour le
ministre. Et puis avide, et puis égoïste. C'est aussi des significations de hug en anglais.
Voilà, c'est ça. En fait, nous, les hugs, on les désigne par des gens... qui ont des moyens en fait et qui s'achètent une Harley pour dire je suis un rebelle
pour frimer
voilà, mais qui n'ont rien à voir avec l'esprit qui est désigné aux États-Unis depuis des centenaires
qui est l'esprit à votre avis qui est l'esprit des vrais bikers.
Oui, c'est ça, l'esprit des vrais bikers. D'ailleurs, les bikers à la base c'était ça, c'était les gens qui roulaient en Harley. Et c'est devenu des bikers, même des gens maintenant qui roulent en japonais, on peut appeler ça aussi des bikers, pour moi.
Qu'est-ce qui est dans la mécanique des Harley, qu'est-ce qui fait l'originalité des Harley Davidson?
Alors pour moi déjà une vraie...
Je veux dire, quand on lit la littérature sur Harley Davidson, on s'aperçoit d'abord que c'est une marque très ancienne, parce qu'elle a plus d'un siècle d'existence, mais aussi que les gens... passent leur temps à les customiser. Les amoureux de Harley Davidson changent la forme du guidon, font usiner des pièces dans de l'alu massif. Enfin, tout ça, vous le savez mieux que moi.
Oui, parce que c'est quand même beaucoup plus facile à transformer qu'une autre marque.
Pourquoi?
Et mais pourquoi, je ne sais pas. Parce que c'est simple, la mécanique, elle est simple. Enfin, moi, je parle pour les motos à carbu. Après, moi, je suis pas un fanat des injections, donc je reste au carbu, parce que déjà, le carbu, ça fait un bruit qui ne peut pas être fait avec les injections. Et puis après, ça reste la mécanique super simple, on va dire comme une mobilette.
Et puis avec la transmission aussi, qui est quand même originale.
Oui, c'est ça, la transmission, pareil. Enfin, pour moi, c'est assez simple comme mécanique. Mais après, pourquoi c'est plus facilement transformable? Enfin, de mémoire, Harley gagne plus d'argent avec les accessoires que par la vente des motos. Voilà, parce que c'est tous les accessoires qui coûtent cher en fait. Vous pouvez acheter une moto à 15 000 euros, elle va vous revenir à 35 000 euros parce que vous avez tout mis avec des accessoires.
Et alors si j'en crois la littérature, ça va jusqu'aux vêtements aussi.
Oui, les vêtements, pareil.
Non, les patchs, etc.
Oui, voilà, les bikers, ils ont tous un gilet avec plusieurs patchs. Il y en a qui sont garnis de patchs, il y en a d'autres qui ont 3-4 patchs.
Ils ont tous une signification.
Voilà. En fait, oui, il y a des patchs qui ont une signification.
Oui, il y en a pas mal. Hein. Alors, vous faites partie d'un club de moto ou bien vous êtes indépendant?
Non, je suis indépendant pour l'instant. Je vais faire ma demande bientôt.
Il n'y a pas de club de moto, de club de Harley-Davidson à Périgueux?
Alors, si à Périgueux, il y en a... Enfin, pas Périgueux même, non. Bon, il n'y a pas à Périgueux de club de moto, il y en a en Dordogne. Mais après, ils ne sont pas uniquement Harley, hein. Voilà, il y a des clubs de moto, il y a différents clubs de moto. Ouais. Il y a des clubs de loisirs. Il y a
pas qui sont exclusivement.
En fait, il n'y a aucun
club. De possesseurs de Harley.
En ma connaissance, non.
Et vous trouvez que ça manque ou bien.
Mais après, pour entrer dans les clubs de moto, on va dire Harley-Davidson, où je pense qu'il n'y a que des Harley, c'est un peu plus compliqué. On rentre pas. N'importe comment, n'importe qui. Enfin, il faut faire sa demande et il faut être accepté.
Et quels sont les critères alors pour être accepté?
Les critères, moi je ne les connais pas. C'est eux qui les connaissent. Il faut faire ses preuves déjà pour avoir un certain nombre de pour appartenir au club, il faut appartenir au club pendant 6 mois, et au bout de 6 mois, on vous remet des couleurs qui disent que vous êtes bien dans le club.
Quel que soit le club, alors.
Dans certains clubs de Dordogne. Non, pas dans tous les clubs.
D'accord. Mais alors, y a quand même une chose qui est notoire, c'est la solidarité qui existe entre les motards. Alors ça, est-ce que c'est une des valeurs aussi de la pratique de la grosse moto?
C'est ce que je vous disais tout à l'heure, en fait. Moi, j'ai appartenu à plusieurs clubs, et je sais que dans les clubs Harley, on va dire, enfin, biker, il y a quand même de la solidarité. C'est-à-dire que, justement, on s'appelle tous des frères, parce qu'on est des frères. Pas des frères de sang, mais des frères de couleur ou des frères de club. Et même sur d'autres départements, on va s'aider mutuellement. Et quand vous êtes dans un club avec des motos japonaises, vous en avez qui sortent du lot, hein, mais...
C'est pas la même chose.
C'est pas pareil. La fraternité n'est pas la même.
Et ça, vous l'attribuez à quoi, alors?
Ben, à ce qui a été, créé au départ de cette marque. Alors, qui a créé ça, qui a décidé ça, je ne sais pas trop. Mais il y a eu un code.
Voilà. Mais vous connaissez pas l'origine de ça? Quand vous connaissez le film Easy Rider?
Oui,
évidemment. Oui. En 1969, on lit partout que c'est ça qui a été le...
Oui, je pense que ça a été un boom, quoi. Ça a donné des idées à certains, certainement.
Mais à ce moment-là, c'était quand même déjà... On était quand même déjà avancé dans l'histoire des clubs de grosses motos, en particulier aux États-Unis, puisque si on rapproche ça... De Hollister, par exemple, qui a donné naissance à l'équipée sauvage, ça s'est passé presque 20 ans avant. C'est-à-dire que, en fait, on a l'impression que tout ça, ça a résulté de la démocratisation des grosses motos qui est survenue après la Seconde Guerre mondiale, quand il y a eu des surplus de motos de l'armée, dont une bonne partie était des Harley Davidson. Et où les gens ont commencé à pratiquer ça.
Alors, je crois, de mémoire, que le 1%, c'est arrivé après la guerre d'Indochine.
Oui.
Et que les... ils s'appellent comment les...
Les vétérans.
Les vétérans, oui. Ils étaient un peu rejetés de leur statut, quoi, en fait. Oui. Ils étaient un peu perdus. Et du coup, c'est venu comme ça, le 1%, à la base, je crois.
Ça, c'est intéressant.
Il me semble.
La signification... D'abord, une question importante... Est-ce qu'il y a une proportion relativement importante ou bien tout à fait minime de femmes dans les clubs de moto? Dans les clubs de moto Harley-Davidson.
Il n'y a pas de femmes.
Elles sont exclues.
Alors elles peuvent venir au club, mais elles ne porteront pas les couleurs. Elles ne porteront pas les badges dans le dos.
Mais il y a des femmes qui pratiquent Harley Davidson.
Ah, il y a des femmes qui pratiquent.
Il me semble en avoir vu une la dernière fois que c'est arrêté chez vous. Là.
Oui, tout à fait. Non, mais il y a des femmes qui pratiquent la moto et qui... voilà, il n'y a pas de femmes.
D'accord.
Voilà. Pourquoi il n'y a pas de femmes, je ne sais pas.
Mais, et là, il n'y a pas de revendication féministe accéder à ce statut.
Je pense qu'elles ont dû essayer, mais elles ne sont pas arrivées. Après, elles sont accueillies... dans les clubs, mais elles peuvent rouler aussi, mais pas avec les couleurs.
Et alors, en revanche, est-ce qu'elles sont bien représentées parmi les tatoueuses, puisque c'est un milieu que vous devez un peu connaître quand même?
Oui, dans le tatouage, oui, il y a des femmes. Oui,
ça, il y a... Alors, il y en a même pas mal.
Oui, il y en a pas mal.
Elles tatouent pas seulement les motards, mais...
Les tatoueuses, elles tatouent tout le monde.
Quels sont les tatouages qui sont prisés par les praticiens de Harley-Davidson? Est-ce qu'il y a des tatouages particuliers?
Je pense qu'ils ont tous une tête de mort. Pourquoi? Je sais pas, les têtes de mort, c'est quand même significatif.
Ça, c'est quand même un thème récurrent dans la pratique des motos, puis dans toute la littérature. C'est-à-dire que pratiquer la moto sur un engin qui a une puissance un peu terrifiante, c'est courir un risque quand même. Et ce risque, quelquefois, il se termine de manière tragique.
Oui, tout à fait. Quand on prend une moto, on n'a pas de carrosserie. Si on se plante, si on se relève et on s'essuie, ou alors on est gravement blessé ou on est mort.
Est-ce que ça, c'est quand même, ça fait partie, est-ce que ça fait partie de la vie des motards, se dire voilà, je risque un accident, un tel a eu un accident de telle ou telle gravité, etc.
Après, c'est l'adrénaline aussi. C'est, voilà, moi, j'ai des amis qui sont morts en moto, j'ai mon oncle qui est mort en moto. Et, est-ce qu'on on fait plus rien dans ce cas-là, si on a peur, entre guillemets, de la mort? Je sais qu'avec la vieillesse, quand même, il y a des risques que je ne prends plus. Quand j'étais jeune, je prendrais plus de risques que maintenant. On réfléchit un peu plus.
Vous avez pu rouler à quelle vitesse maximum?
On va dire 2,90 hein, sur circuit, ah, mais pas en Harley.
Bon, très bien. Là, ça doit décoiffer quand même. Hein.
Ouais, on a le casque, donc on ne se décoiffe pas. Oui, non, ça va très très vite.
Alors, quand vous faites du cruising, qu'est-ce que... La sensation quand même que vous avez, qui est décrite par Brigitte Bardot dans sa chanson sur Harley Davidson... Est-ce que vous sentez aussi les trépidations de la machine qui allume des sensations
ouais.
inédites dans le creux de vos reins?
C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est tout à fait ça. Il faut monter sur une Harley et en fait, vous sentez toutes les vibrations dans votre corps comme si vous aviez un téléphone qui vibrait dans votre poche. C'est pareil.
Alors, un gros
téléphone. Oui, un gros téléphone. Mais non, voilà, c'est ça. C'est... Même quand on est à l'arrêt, qu'on accélère un peu, c'est... Voilà, c'est quelque chose qu'il faut...
Les utilisateurs de Harley Davidson, est-ce qu'ils ont été effrayés par tout ce qui s'est passé au moment de la présidence de Trump, là, quand on a annoncé qu'il allait y avoir des mesures de rétorsion commerciale, que les Harley Davidson allaient être... Ou du côté de la France, on a dit on va taxer énormément les Harley Davidson parce que... ça sera une mesure de rétorsion. Eux, ils ne nous achètent pas notre camembert ou notre Roquefort, et nous, on va taxer Harley Davidson. Vous l'avez senti, ça?
Non, je n'ai rien vu. En même temps, il y en a quand même pas mal en France des Harley. Donc non, je n'ai pas entendu de gens qui avaient peur de ça. Après, je ne côtoie peut-être pas les bonnes personnes, ceux qui achètent aux États-Unis, donc je ne sais pas du tout. Non.
Le marché des Harley en France, c'est essentiellement des motos d'occasion, c'est-à-dire des motos qui ont déjà une histoire et qui ont pu être customisées.
Il y a des personnes qui préfèrent acheter des motos neuves ou d'origine et les faire eux-mêmes. Après, il y a des gens qui préfèrent les acheter déjà customisées et les mettre un peu plus à leur goût après. Mais non, dans l'ensemble... voilà, c'est des motos qui décotent pas de toute façon. Donc...
Une Harley d'âge moyen, qui soit pas trop vieille, mais qui n'est pas neuve.
Il y a des gens qui roulent en Harley et qui font 2000 km à l'année. Donc vous pouvez avoir une Harley qui a 30 ans et qui a 20 000 km.
Ça doit être le cas du ministre de la Justice.
Ouais, c'est ça, des hugs. Voilà, c'est des gens qui sortent que leur moto quand il fait chaud, quand il fait beau. Et voilà, comme ça, ils n'ont pas besoin de nettoyer les chromes, ni rien.
Mais alors, une moto d'occasion, mais qui a quand même bien roulé, ça coûte combien à peu près?
En gros, il faut compter entre 8 et 15 000 euros pour avoir une moto, une Harley qui sont en bon état, enfin, voilà, qui ne tombe pas en ruine.
Les pièces sont très chères.
Et après, les pièces, ça dépend, parce que maintenant, vous avez des pièces autres que Harley Davidson, qui ne sont pas estampillées Harley, qui ont la même...
J'ai vu qu'il y avait des sociétés spécialisées dans la production de ces pièces. Et puis, il y avait même des copies, des cheap copies.
Oui, tout à fait. Il y a même des pneus Harley Davidson. Hein. Ouais. Donc, il y a des gens qui sont puristes qui vont mettre des pneus Harley Davidson qui vont coûter, 30% de plus qu'un pneu classique. Il y aura le même effet, il y aura juste marqué Harley dessus.
Qu'est-ce que vous prévoyez comme avenir pour la pratique de la moto? Est-ce que la pratique de la moto vous paraît menacée par ce qui se passe actuellement dans le domaine de l'automobile? On dit on va tout abandonner puis on va passer à l'électrique. Est-ce que ça c'est quelque chose que vous ressentez dans le monde des motards?
Non, je pense pas que... Enfin déjà, ils ne rouleront pas avec des motos électriques, ça c'est sûr. Il faudra qu'il sorte. Et après, je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui passent leur permis moto. Je sais pas, j'ai pas regardé les statistiques, mais je pense qu'il y a... Moi, je vois dans l'entourage, il y a beaucoup de jeunes qui passent leur permis moto.
Pour aborder des motos de gros cylindres.
Oui, après, je ne sais pas si vers quelle moto, style de moto, ils vont s'orienter, qu'il y a une augmentation des permis moto.
Est-ce que vous avez d'autres passions que la moto? Bon, vous avez votre établissement à tenir, à faire prospérer. Est-ce que vous avez d'autres? C'est une question que je pose traditionnellement à mes invités, parce que, bon, qu'ils soient médecins ou qu'ils soient boulangers, ils peuvent
Oui.
avoir d'autres activités que leur métier ou que leur passion principale.
Alors, mon autre passion, la musique. Donc, ça tombe bien puisque j'ai un bar ambiance avec des concerts tous les samedis. Donc, oui, la musique, c'est important. Si j'ai pas la musique, je crois que je pourrais pas vivre.
Alors là, justement, c'est un point qu'on a pratiquement négligé, même beaucoup négligé, c'est les rapports des praticiens de Harley-Davidson avec la musique, en particulier avec le monde du rock. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez senti dans votre passion pour Harley-Davidson?
Ah oui, ils sont plus rock que classique, on va dire. Oui, non, enfin, moi je connais pas de biker, entre guillemets, qui écoute autre chose que du rock. Hein. Voilà, c'est vraiment, alors, c'est une culture.
Et
Après, il y a eu
plutôt.
des, voilà, il y a eu des grands noms qui ont eu des Harley, donc forcément.
Est-ce que vous considérez Johnny Hallyday comme un hog ou bien comme un véritable frère
Non,
dans la
non, c'est
pratique
pas
de la
un hug,
moto?
parce que Johnny Hallyday, il était quand même il connaissait beaucoup de monde dans les mondes des bikers. Non. Non, je pense qu'il était vraiment comme un frère au niveau du monde des motards. Il y a Coluche aussi, et Coluche était, il roulait pas en Harley,
Voilà,
hein.
voilà, voilà.
Coluche,
Alors, tout à l'heure, on parlait de mort et on.
Coluche, bon, faut pas me parler de sa mort, parce que pour moi, c'est pas un accident. Mais ça, c'est mon côté rebelle.
Ah bon, ah bon, ah bon. Ouh là là, 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 on aborde
Oui, voilà,
on
après,
aborde
c'est
des
mon
sujets
opinion, c'est bon.
très compliqués, là.
C'est ce que je pense moi, mais après, il y en a beaucoup qui pensent ça, quand même. Journaliste, enfin, c'est quand même votre travail de. Il y a quand même beaucoup de gens qui pensent quand même qu'il n'est pas mort par accident.
Ah bon?
Il était quand
Alors,
même champion du monde de
là,
vitesse.
avant, il était champion de
Champion
vitesse.
de France de vitesse.
Ah oui, ah oui.
Donc
Mais
bon.
je croyais qu'il y avait eu un accident avec un camion.
Oui, avec un camion, oui. Bah, deux amis à lui sont passés avant et juste après lui, quand il est passé, là, le camion a reculé
D'accord. Qui
et
s'est
c'est pris le
trouvé là.
camion.
On va être obligé de s'arrêter, malheureusement, parce que le temps passe très très vite. Moi, je vais terminer, non pas en vous enchanter, je n'ai besoin de personne en Harley-Davidson, comme Brigitte Bardot, mais je vais vous dire un petit poème que j'ai composé pour conclure cet entretien, dont je vous remercie beaucoup. Je connaissais déjà les épiceries buvettes, les grandes stations-service où l'on vend des baguettes, mais c'est la première fois, ma foi, que je vois un bistrot qui répare les motos et où une belle tatoueuse à l'aiguille fameuse, dans cet endroit, Itou, peut vous orner partout. Bon, si ça vous démange, ça s'appelle Lagrange. Sébastien, au revoir et merci.
Merci beaucoup à vous et au plaisir de rencontrer les personnes qui écoutent l'interview.
C'était Tranche de vie, une émission proposée par Jean-François.